cobuzz.com.
Rencontre par Marc Zisman.
Virgin Classics vient de publier La vie parisienne d'Offenbach en DVD, qui était mise en scène par Laurent Pelly, dans lequel vous étiez le baron.
Le baron Bondremarck.
Exactement. Et une mise en scène assez délirante, originale. Quel souvenir vous gardez de cette production, de cette aventure?
Un souvenir d'énergie incroyable. C'est-à-dire que c'était le genre de spectacle où, quand on le répétait et quand on le jouait, je crois que j'avais deux fois plus d'énergie en sortant de scène que même avant d'y rentrer, tellement ça boostait tout. Et donc, si je devais associer un souvenir, c'est que j'étais dans une forme pas possible. Enfin, on n'arrêtait pas, on sortait après le spectacle, on terminait à 4h du matin, le lendemain, on pouvait recommencer, j'en avais rien à faire. C'était inusable, infatigable, c'était d'une bonne énergie positive.
Si c'est l'effet Offenbach, ça, qui...
C'est l'effet Offenbach, c'est l'effet de cette production. C'était vraiment... Ouais, il y avait... C'est ça, le côté, ça fait un peu New Age, mais enfin, il y avait plein de bonnes ondes.
Et manger du tofu, entre autres.
Voilà, mais on, non, c'est ça, surtout, même pas manger du tofu, je pouvais boire comme c'était pas possible, et on se retrouvait le lendemain frais comme une rose. Je ne sais, il y a des fois des moments comme ça. C'était comme ça, quelque chose d'extrêmement festif, joyeux, aussi joyeux in que off stage. Donc ça, c'était vraiment... très agréable, je suis ravi qu'on le refasse d'ailleurs l'année prochaine. Et ben non, c'est très émouvant de voir ce souvenir, enfin à titre personnel, de voir ce petit témoignage, ça me touche beaucoup. Voilà.
Vous êtes bien grimé dans dans cette production.
En cochon rose blond suédois.
Je crois que scandinave.
Voilà, j'espère que les Suédois ne s'en offusqueront pas. Disons, je suis grimé en cliché de ce qu'on pense être un vieux Suédois libidineux, c'est-à-dire une espèce de petit cochon de lait à perruque blonde et barbiche. Un peu avec un léger embonpoint, très léger. Voilà, donc ça, effectivement, la première fois que je suis arrivé sur scène, que mes collègues m'ont vu comme ça, peut-être qu'il y en a qui ne m'ont pas reconnu tout de suite. Quoi. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo. Ces grandes transformations sont toujours très plaisantes. Et puis, une grande partie du personnage vous rentre dans la peau au moment où vous endossez cet aspect-là, c'est sûr.
Rentrer dans la peau d'un personnage, est-ce qu'il y a une approche qui est un peu à chaque fois la même? Est-ce que ça dépend du personnage? Comment vous abordez chaque rôle? Est-ce que c'est propre à la partition, propre au rôle lui-même, propre aux parties? Aux personnes avec lesquelles vous allez travailler, comment ça fonctionne?
Un peu de tout ça. J'ai beaucoup travaillé avec Laurent. Ça devait être la 8e ou 9e production qu'on faisait ensemble. Et quelque part, intuitivement, je sais par quel bout il rentre dans ce type de personnage-là. C'est-à-dire un personnage quand même assez graphique. On ne va pas aller dans l'immense finesse. Enfin, c'est fait pour ça. Hein. C'est-à-dire que, comique. Mais toujours, bien sûr, peut-être avec un peu plus de profondeur. Donc il faut, dès le départ, avoir une idée très dessinée sur la scène des trajectoires et très vite déterminer quelles sont les intentions principales à chaque fois et le but principal à chaque fois. Un par un, moment après moment, et être très très clair là-dessus, ça permet de canaliser l'énergie. Certains personnages réclament une préparation plus grande que d'autres, si vous voulez. Plus les univers vous sont étrangers, plus l'œuvre est complexe, plus vous avez besoin d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de votre partition pour savoir par quel bout l'attaquer. C'est pas prétentieux, ou c'est peut-être comme ça. Enfin, c'est vrai que pour le baron de Gondremarck, bon, j'ai regardé l'histoire, je connais Laurent, et ça m'a un peu suffi pour savoir qu'est-ce que j'allais en faire. Par exemple, si j'aborde, comme ça va arriver, le Rosenkavalier, Strauss et Hofmannsthal surtout, et la culture viennoise sont des choses qui me sont beaucoup plus éloignées, et donc là j'aurais besoin de creuser ailleurs avant de songer à vraiment rentrer dans le personnage du Baron Hawkes. Voilà, ça, donc il y a des œuvres qui vous sont plus ou moins loin, et plus ou moins loin de votre univers personnel, et des œuvres plus ou moins chargées, et le travail s'en trouve modifié.
Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être. Or 3 mois, c'est bien peu, je crois. Bien peu quand on veut tout connaître. Aussi je veux dans ces 3 mois. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Porte la lettre avec là. Je veux m'en fourrer jusque-là. Je veux m'en fourrer jusque-là.
Comment se fait justement la ligne de démarcation de No Man's Land entre la partie technique, le chant, l'aspect vocal, la partition, et tout l'aspect endosser un rôle, un personnage, bouger sur scène, être déguisé comme là c'était le cas? Est-ce que tout ça se fait simultanément? Est-ce que c'est un travail? Évidemment, j'imagine qu'en fonction, comme vous venez de le dire, des partitions, la difficulté n'est pas la même. Donc,
Ce qui est sûr, c'est que quand vous préparez une partition au piano, enfin avant de la répéter en scène, forcément il faut avoir des idées assez précises de ce que vous avez en tête. De ce que vous voulez donner comme intention dramatiquement, la couleur de ce que vous travaillez forcément va se trouver grandement modifiée au moment où vous commencerez à répéter sur scène. D'abord parce que vous découvrirez toujours des choses sur ce personnage auquel vous ne vous attendiez pas, il y a toujours des surprises, et en plus finalement on n'est jamais 24 heures sur 24 avec un personnage quand on prépare un opéra, puisqu'on est en train de chanter d'autres opéras, d'être sur scène pour d'autres choses, hein, toujours 13 chats à fouetter différents. Donc on ne rentre dans le quotidien du travail d'un rôle finalement que dans la période de répétition. Avant, vous pouvez avoir 2 ou 3 séances par semaine, enfin, mais vous êtes, oui, il y a d'autres choses qui occupent votre temps, votre espace. Il y a une maturation qui se fait, mais qui n'est pas du même ordre que au moment où vous rentrez en période de répétition, les 5-6 semaines avant la première, où c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est le seul moment où vous pouvez le faire, parce que le reste du temps, vous êtes occupé à d'autres choses, voilà, c'est comme ça que ça marche.
L'impact physique, alors, le fait de bouger, d'être grimé sur scène, vous fait découvrir parfois un chant différemment quand vous êtes sous votre douche ou quand vous êtes assis devant...
Complètement, quand on est assis devant le piano. D'abord, il y a des choses que vous réalisez que vous ne pouvez pas faire parce que simplement l'activité physique vous réclame trop de... Trop de souffle. C'est d'autant plus vrai si vous le faites dans des endroits comme Santa Fe au Nouveau-Mexique, vous êtes à 2700 mètres d'altitude. Il y a des choses que je ne peux simplement pas faire sur scène aussi facilement que je les ferai au niveau de la mer. Ça pompe du souffle, et donc il y a des phrases où je suis obligé de respirer, tout le monde le sait, les chanteurs sont toujours... Enfin bon, ça c'est des paramètres de cuisine interne et qui effectivement arrivent. Et puis aussi, non seulement ça, mais la taille de la salle fait que aussi... la taille du plateau fait que les choses vont se passer différemment. Les tempi vont être légèrement différents.
Le partenaire aussi.
Voilà, le partenaire, le chef, enfin tout ça fait que vous découvrez d'autres façons. Il ne faut jamais trop s'accrocher. Il faut avoir des rêves et des projections quand on est en train de travailler quelque chose chez soi. Mais il ne faut pas les prendre pour une vérité intangible ou le but à atteindre absolument, parce que sinon on se retrouvera forcément déçu, puis on ne fera pas un travail aussi intéressant que si on est ouvert à ce que les conditions vraies de travail et le vrai travail en scène va faire évoluer dans votre façon de concevoir le rôle et dans votre façon de le chanter.
Toujours sur ce chapitre d'aborder un rôle, Est-ce que, bon, évidemment la partition, mais comment vous gérez, j'allais dire, l'avant-vous, c'est-à-dire quand ce sont des rôles, est-ce que vous êtes plutôt tendance à justement à avoir un côté un peu d'archiviste, d'aller voir un peu ce qui a été fait, ce qui s'est fait, ou au contraire plutôt à vous couper de tout ça et à rester proche de vos partenaires et de la partition ou ça dépend peut-être.
Je pense que chacun fait comme il l'entend. Moi en général, quand c'est un univers dont je pense avoir culturellement, c'est-à-dire du point de vue de la langue, du point de vue de l'univers auquel ça fait référence, suffisamment de références personnelles pour construire ma petite cuisine, je préfère m'en tenir là et éventuellement écouter l'avant plutôt après, si je puis dire. C'est-à-dire après avoir fait moi ce que j'avais envie de faire. C'est le cas d'ailleurs pour La Vie Parisienne, comme ça a été le cas pour tous les Offenbach que j'ai fait. Je parle français, je suis familier de la culture de cette époque-là, de l'humour... je dirais juif français du 19e siècle, enfin je vois très bien comment ça fonctionne. Et après, disons que j'ai un peu peur, si j'écoute des grands anciens, d'être en fait ou paralysé ou victime inconsciemment d'une
influence de mimétisme, si vous voulez,
sans m'en rendre compte. Alors par contre, effectivement, il y a des univers dont je possède moins les références. Par imprégnation culturelle, et où là, j'ai envie d'aller écouter ce qui s'est fait ailleurs, mais pas trop. Disons, quand je commence à sentir où je veux aller, j'essaie de m'arrêter. Je préfère explorer ça tout seul. Je ne dis pas que c'est la bonne recette, ou pas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est tout.
Est-ce que c'est lié au fait que, finalement... Je crois que le chant n'est pas quelque chose que vous aviez... Enfin, envie d'El Berceau, vous ne preniez pas pour Dietrich Fischer Disco quand vous aviez 3 ans sur votre lit en sautant.
Ça c'est sûr, la vocation est tardive, mais je pense que, aurait-elle été tardive ou pas, je veux dire, j'ai une solide culture de l'histoire du chant, mais je ne vais pas fréquenter l'œuvre au moment où je vais l'apprendre, sauf exception. Je sais pas, ça a la prétention peut-être de garder un regard frais ou... Je pense que j'ai suffisamment, inconsciemment, parce que je les écoutais et parce que je suis passé au travers en les écoutant, j'ai les œuvres dans la tête. Simplement, je vais pas me dire, au moment où je vais apprendre telle chose, « Ah, je vais réécouter machin dans machine, etc., dans telle œuvre, pour voir... » Parce qu'à ce moment-là où moi, je suis dans la partition, j'ai envie d'être tout seul un peu.
Est-ce que vous vous réécoutez de temps en temps?
Moi aussi. Il faut... Mais c'est pas très agréable. Je suis pas très. Je le fais pour essayer d'apprendre, pour voir où ça allait pas, etc., etc., de comprendre ce qui a pu être bien, ce qui a pu être moins bien. Mais je le fais pas avec une très bonne volonté, je dois dire.
Très dans les pieds.
Ouais, bah, vraiment.
Est-ce que vous en avez la perception? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous voulez pas penser?
Moi, j'aimerais la faire évoluer dans le sens, j'espère que je trouverai les gens parmi les directeurs de théâtre pour la faire évoluer dans le sens dont je pense où elle doit évoluer. C'est-à-dire que jusque-là, finalement, beaucoup de gens m'ont entendu dans du baroque, m'ont entendu dans de la musique française.
Du jazz?
Dans le jazz, ça j'en fais, ça commence à évoluer de plus en plus, je suis très content de ça, j'essaie de le faire évoluer encore. Mais du point de vue de l'opéra, finalement, là où j'ai eu le plus de succès, où les choses se sont faites, enfin vraiment, oui, c'était quand même dans le 19e siècle tardif italien, c'est-à-dire Falstaff, c'est-à-dire Puccini, Tabarro, et moi c'est là que j'ai envie d'explorer parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à faire là. Ça s'est très bien passé jusque-là, j'ai envie de voir Othello, Othello, Scarpia, oui, j'ai vraiment, là j'ai des choses à dire très très précisément, et je pense que ça correspond bien, au risque de surprendre, et disons que ça s'est prouvé les fois où j'ai fait Falstaff, les fois où j'ai fait Puccini, ça a toujours été quelque chose d'extrême, qui a été vraiment très, comment on dit ça, successful, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Successeux.
Successeux. Voilà, et moi ça m'a fait, enfin j'ai pris un grand plaisir à le faire, j'ai envie vraiment de continuer là-dedans. Maintenant, il y a tellement de choses que je suis content de faire, que j'ai envie de refaire, et c'est très varié, hein, donc j'ai pas, mais disons, voilà, la direction que je pense qui n'est pas encore assez prise et qui devrait, que j'espère pouvoir creuser, c'est celle-là. En ce qui concerne le jazz, ben, j'ai eu une très belle expérience là avec Manuel Rochman et son, mais même aussi maintenant avec son trio, donc avec Mathieu Chazarinck et Mathias Alaman. Et on a fait un concert que j'ai beaucoup aimé au Petit Palais, qu'on va refaire à Toulouse. Et je vais essayer de le faire bouger, celui-là. J'ai commencé piano et voix parce que ça me semblait plus facile. En fait, c'est beaucoup plus difficile, quelque part. Mais là, avec un trio, j'ai pris un plaisir énorme. Et j'aimerais pouvoir continuer dans cette direction-là parce que ça m'apporte énormément. C'est vraiment c'était quand même la première musique d'où là où je venais musicalement, et ben ça a mis 25 ans à devenir un peu réalité, mais voilà, j'ai encore quelques années devant moi pour creuser.
Ce projet avec Manuel Rochman, c'est un album autour de Bill Evans.
Alors ça, c'était, oui, c'était la première chose qu'on a fait ensemble.
Est-ce que c'était, je crois que Bill Evans, c'est quelqu'un qui, dans votre passion pour le jazz, est quelqu'un qui vous... Un dossier qui vous touche énormément.
Absolument.
Est-ce que c'était pour Bill Evans ou pour les éventuels albums qu'il a fait justement avec des chanteurs,
vous, non,
aussi, il a fait, que ce soit avec
Lee
Bennett
ou
Monica Zetterlund.
Avec Monica Zetterlund. Je ne suis pas très fan de Monica Zetterlund. Ah. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Tony Bennett. Énormément. Énormément. Et surtout l'album qu'on ne trouve pas en France.
Enfin, le deuxième. Organ.
Ouais. D'ailleurs, ils avaient fait ensemble la session et il n'était pas con, Tony Bennett. Il a partagé, il a pris, il a gardé le meilleur pour lui. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et surtout, je pense qu'il était particulièrement inspiré dans ces sessions-là, Bill en solo. Mais c'était... Non, c'est surtout la musique de Bill Evans. C'est un musicien qui me touche énormément, même dans son éthique par rapport au jazz, par rapport à la musique, ce qu'il dit. Toutes les interviews, tout ce qu'il dit du jazz et tout ce qu'il dit de cet entraînement, de cette astreinte, de cette discipline et du fait que c'est quelque chose que vous travaillez à fond, et puis au bout d'un moment vous arrivez à des soirs vous dites oh, je peux pas jouer, ça m'énerve, j'ai pas envie, et puis vous appuyez sur le bouton et ça sort. Cette discipline là qui fait que malgré vous ça sort plus ou moins bon, plus ou moins, mais ça, il y a quelque chose comme ça de travail, de modestie par rapport à ce qui fait qui moi me touche énormément. Et je pense simplement instrumentalement que c'est un des musiciens qui a des touchés les plus incroyables que je puisse, auquel je puisse penser. Il y a un perlé dans l'aigu qui est fondamentalement phénoménal. Il y a une façon d'entendre le contrepoint de ce qu'il peut jouer, et toutes ces voix intermédiaires qui vont juste se déplacer, qui créent toute la richesse du paysage. Il y a, dans le dernier disque qu'Eliane Elias a fait un disque où on a retrouvé une vieille cassette où il joue un thème qu'elle a mis des paroles, mais surtout la cassette, on l'entend jouer pour ses potes. Ouais, j'ai fait un truc là, tu vas voir, c'est un super morceau, cette cassette là cette plage là je me la suis passée je sais pas combien de temps. On l'entend comme ça, avec le son pourri, et puis mais on entend ce qu'il fait de ça, c'est du Scriabine, enfin je sais pas, c'est énorme.
Oui, justement, vous dites Scriabine, mais est-ce que vous touchez aussi dans son univers les passerelles avec l'univers classique?
Moi, ce qui me touche dans son univers essentiellement, et je suis venu là à Bill Evans, c'est la richesse harmonique. qui n'est pas propre au classique compositeur, mais je fonctionne plus finalement à l'harmonique, qu'à la thématique mélodique. Et je connais, enfin voilà, c'est pour moi, c'est un des pianistes les plus de jazz les plus impressionnants quant à sa connaissance, sa pratique, sa sensualité harmonique. Je peux écouter le disque Alone, mon Dieu, on peut l'écouter mais sans arrêt. Le chorus de His That Rainy Day est pour moi une des choses les plus parfaites jamais faites en jazz. Je veux dire, avec un début, une fin, en passant par, c'est un modèle du genre. Je peux pas dire mieux.
Par des noms chanteurs,
actuellement,
que par des
oui, voix. Oui. Je sais, on dit, je ne fais pas du jazz parce que je ne scatte pas, j'en sais rien, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je trouve qu'il y a très peu de grands chanteurs de jazz qui sont des grands scatteurs, en fait. Très, très, très peu.
Est-ce que vous avez des grands chanteurs de jazz tout court?
Ah oui, grands chanteurs de jazz, je dirais, moi, ça a changé ma vie. Je connaissais depuis longtemps, mais de l'avoir vu live en septembre, Mark Murphy au Sunside. C'est ma plus grande expérience de chanteur en trio. Je veux dire, je pense que ma façon de chanter a changé depuis le mois de septembre. Et pourtant, Dieu sait que je connaissais ces 10 d'avant, mais de le voir. Enfin, et ce qui se fait en scat n'est pas nécessairement ce que je préfère d'ailleurs, mais sa façon de raconter, de dire, de placer les mots, c'est de la poésie pure. Je crois qu'il en, enfin, oui, pour les mecs chanteurs, parce que évidemment, on peut toujours aussi être influencé par des grandes dames, bien sûr, mais il y a peu de grands mecs chanteurs de jazz, mais lui, pour moi, c'est le sommet, quoi.
Qu'est-ce qui a fait justement que vous n'êtes pas devenu chanteur de jazz, si on peut avoir une appellation chanteur de jazz?
Parce que je crois que j'avais un tempérament très académique, j'étais un très bon élève, et que
c'est réservé aux bad boys?
Non, je crois, j'avais besoin d'apprendre. Je me dis, ah bon, ben on m'a dit, ah, ben la voix, j'ai quelque chose à faire avec, alors je vais apprendre la voix. Et je ne me trouvais pas assez bon musicien, ni assez comme ça, pour juste chanter. Je ne m'y voyais pas de légitimité. C'est très aussi con que ça. Je ne sais toujours pas si j'en ai une, d'ailleurs. Mais au départ, j'ai fait bon élève. Je dis, ah ben, je vais apprendre alors la voix, oui. De l'opéra, bon, ouais, les gros qui crient, je sais pas, mais puisqu'il y a peut-être une chance que je fasse de la musique avec ça, ben je vais faire de la musique avec ça. Mais il y avait le côté, tu vas apprendre à servir. C'est vrai que, effectivement, quand même, du point de vue technique vocale, il y a plus à apprendre, si vous voulez, pour arriver à reprogrammer l'instrument voix, pour en faire quelque chose qui projette et qui arrive, voilà, que en jazz, où vous apprenez la musique, si vous voulez, qui est une musique de pratique. Mais du point de vue pose vocale, c'est quand même effectivement, pour avoir pratiqué les deux, quand même infiniment moins sophistiqué. C'est pas là où se joue la musique. La musique se joue dans le dire, la musique se joue dans la nature du timbre même de la voix, qui est quelque chose que vous ne travaillez pas. Je veux dire, qui est quelque chose que vous travaillez, mais quelque chose qui est là énormément au départ. Donc, je me sentais pas assez fort pour dire, ouais, voilà, ça que je vais faire et j'ai la voix qu'il faut pour le faire.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas se mettre plus à nu finalement?
Bien sûr, bien sûr. Moi, je me sentais pas du tout cette aptitude-là. Et. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à essayer de faire du jazz, et Dieu sait que je ne me prétends pas du tout y arriver ou quoi, mais enfin, je suis touché que les musiciens avec qui je travaille soient contents de travailler avec moi, c'est déjà ça, et qu'on s'entende bien, et je mesure bien tout ce qui me sépare encore, avec les 15 ou même pas 10 malheureux concerts que j'ai pu faire de chanteurs que j'aime en jazz et que j'admire, c'est évident. Mais il m'a fallu tout ce temps-là, ça a été très long, ça a été une première rencontre sur l'instigation de Martial Solal avec Manuel Rochman, une première rencontre où je me suis trouvé tellement nul que je n'ai plus téléphoné pendant un an et demi. On s'est rencontrés par hasard dans la rue, si on ne s'était pas rencontrés dans la rue, peut-être je ne ferais jamais de jazz, c'était vraiment, voilà. Et il m'a poussé un peu et voilà, mais il faut beaucoup, je pense, à la différence du classique par contre, où on apprend, c'est vrai, beaucoup en concert, en jazz on apprend beaucoup quand on joue. Quand on répète aussi, mais quand on joue énormément.
L'impact de tout ça sur, quand vous chantez du classique, de l'un sur l'autre, j'allais dire, les vases communicants...
J'espère, au niveau en tout cas du récital classique, peut-être une plus grande sérénité face à un certain lâcher-prise, que je crois important. Le jazz vous apprend... vous apprend le fait que pour que ça soit bien, il faut que vous acceptiez que ça puisse être pas bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout verrouiller. Faut laisser des choses ouvertes parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et en classique, on est toujours à dire, alors là, pour faire ce forte, ce piano, je vais... Et parfois, c'est peut-être intéressant justement aussi d'essayer de dire qu'il faut essayer de faire confiance au moment. Des fois, on va se planter. Mais les moments où on ne va pas se planter, ça va être des moments très intéressants. Quelque chose comme ça. J'espère que ça m'aide dans ce sens-là.
In her own sweet world, populated by dolls and clowns, and a prince and a big purple bear, lives my favorite girl. Unaware of the worried frown that we weary grown-ups all wear. In the sun she dances to silent music, songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her city all bare. When she goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will I.
En termes de jazz, j'aimerais développer parce que Cole Porter s'est très bien passé. J'ai envie vraiment d'essayer de le tourner, ce truc-là. Ça n'exclut pas, mais ça nécessite encore beaucoup de choses avec la musique brésilienne, parce que j'ai eu la chance de rencontrer, comme je chantais une chanson qui s'appelle Minha dans le disque de Bill, j'ai rencontré le compositeur de cette chanson qui en fait. Pas très connu en France, mais qui est Michel Legrand, brésilien, que tout le monde, qui a fait la moitié de ses chansons avec Chico Buarque, qui s'appelle Francis Haim. On s'est très bien entendu. Il m'a filé son songbook et il y a plein de chansons que j'ai envie de faire de lui. Ça, je l'avais commencé à le travailler. Peut-être qu'à cause de Cole Porter, je vais laisser de côté, mais enfin, voilà. Ça, c'est une ligne de travail, le Brésil. J'ai encore, voilà, pour vous dire que j'ai plein de choses en tête, j'ai une ligne. comme un hommage à Mel Tormé, parce que je pense que c'est un des meilleurs choisisseurs de chansons que je connaisse. Il a des chansons dans sa discographie que personne d'autre ne chante, ou très rarement, et qui sont magnifiques, et qui gagnent
une manière de chanter qui est unique.
Bon, mais ça, je veux dire, si je commence à chercher à l'imiter, là, c'est foutu. De toute façon, on n'en parlera plus, quoi. Je veux dire, c'était un tel musicien. Mais bon, il faut essayer d'apporter sa petite pierre. Et bon, voilà. Dans ça, je vais essayer de mener ces barques-là. Mais je me rends compte, en en parlant d'ailleurs avec des chanteurs de jazz, je n'aurais pas pour l'instant les appeler collègues. Mais disons, je suis un aspirant collègue. Mais c'est vrai que, parce qu'avec 12 000 trucs, mais tu fais ça, mais creuse un truc, ils ont raison. Alors, si je peux creuser Cole Porter, parce que ça s'est bien passé au Petit Palais, que ça me plaît bien, et on a quelque chose de bien, je vais essayer de le creuser. Ouais.
Passer d'un répertoire à l'autre, de compositeur, éloigné d'un siècle à l'autre, ça se fait comme un revers de manche. C'est parfois difficile.
Il m'est arrivé de faire Carmen à Londres le lundi, du jazz à Paris le mercredi, Carmen à Londres le jeudi. Et ça, j'aime bien. Ça me dérange pas trop, ça, du moment que je suis pas fatigué.
Ça vous fait plaisir, oui, ça me dérange.
J'adore
pas.
Ça. J'adore ça.
Parce que c'est un plaisir justement d'éclectisme comme ça.
J'adore. C'est certainement prétentieux aussi de dire je vais tout faire, machin, etc. Mais enfin, en même temps, c'est comme ça que je prends beaucoup de plaisir. J'ai eu ce mois-ci, j'ai eu des concerts Schubert, des concerts de jazz, des concerts opéra. C'est des univers qui existent concomitamment, comme ça, dans ma tête et dans mon corps. Et. Non, ça, j'ai pas l'impression que ça me pose plus de problèmes que ça. Il y a peut-être de l'inconscience là-dedans, j'en sais rien. Je sens par contre que j'ai encore besoin, ça en répétition aussi, mais par exemple, c'est que c'est idiot, mais il faut vraiment que je m'achète un micro et une sono, parce que quand on répète avec les musiciens, je sens que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup à travailler, à découvrir vis-à-vis du micro. Là, il y a une technique énorme. Les gens qui se servent bien du micro, moins bien du micro. Voilà, ça, c'est de la cuisine interne que j'ai besoin de beaucoup développer et que je vais essayer d'y consacrer une part de mon temps dans les années qui viennent.
Vous dites souvent beaucoup travailler, chercher, etc. Est-ce que enfin, tout ça, c'est quoi? C'est un peu le cliché de la quête permanente de savoir comment c'est.
C'est
des grosses questions.
C'est la meilleure façon de ne pas s'ennuyer. non, mais c'est vrai que.
Est-ce que vous avez des gros. Enfin, intérieurement, vous avez des grosses interrogations justement par rapport à votre art,
toujours.
Par rapport
aux. Énorme.
À vos questions permanentes, est-ce que tout ça.
Énorme, mais disons que je crois plus récemment, je suis arrivé avec une certaine sérénité récemment, mais c'est pas loin.
À cause de quelque chose.
Je sais pas, les événements, les baffes que vous pouvez prendre, les choses, ou de me dire oui, c'est bien d'avoir à continuer à travailler. Je sais pas comment dire. C'est au contraire, c'est vraiment une valeur positive et. D'arriver, de supporter, par exemple, de me réécouter, ce qui est vraiment pas. Mais pourquoi est-ce que j'évitais de me réécouter? Parce que je voulais pas voir ce qui va pas. Alors j'accepte peut-être mieux maintenant de voir ce qui va pas et d'essayer de l'améliorer. Notamment, par exemple, quand j'entends ces histoires, ce concert, j'entends beaucoup de choses qui me plaisent et beaucoup de choses par rapport au micro, je me rends compte qu'il y a vraiment 12 000 choses à améliorer, à rectifier, à contrôler. C'est très intéressant. Et. Du point de vue de l'opéra, c'est différent parce que ce que vous écoutez n'est pas ce qui a été entendu. Ce que vous écoutez, c'est un enregistrement. C'est-à-dire que vous n'entendez pas l'impact sonore dans la salle. Donc, ça peut vous aider musicalement. Ce que vous écoutez, quand vous écoutez un concert de jazz, donc il y a un concert amplifié, vous avez une trace qui est assez directe, qui est assez le témoignage de ce qui se passait dans la salle. Quand vous écoutez un enregistrement d'opéra, vous écoutez quelque chose où le micro, de toute façon, était tout près de vous. C'est pas... Ça vous apporte des choses sur le legato, sur ce que vous pourriez faire, etc. Enfin, il y a plein de paramètres dont vous pouvez améliorer. Mais il y a aussi des choses dont vous n'avez pas trace ou qu'on n'aura jamais, puisqu'on ne peut jamais être en même temps dans la salle et sur scène. Donc, c'est pas les mêmes... on ne travaille pas avec les mêmes choses.
par rapport toujours à ce, enfin, ces parallèles ou ces mises en miroir du jazz et du, l'univers de l'opéra. En jazz, vous êtes finalement le seul, enfin, il y a des musiciens avec vous, mais vous êtes le seul à chanter.
Ouais.
Vous abordez l'opéra, vous avez des confrères, des collègues. Se retrouver comme ça, seul avec, avec soi-même, est-ce qu'aussi c'est quelque chose, c'est une donnée qui pour vous est...
Ben, de toute façon, je fais de plus en plus de musique de chambre. Donc ça, je veux dire, j'ai fait pas mal de Dichtalib cette année, Winterreise. J'ai fait d'autres concerts, j'adore ça. J'en ai pas fait pendant longtemps parce qu'on ne m'a pas demandé. Et puis, comme on m'en demande un peu de plus en plus, c'est vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ça. C'est même la raison pour laquelle je vais enfin m'acheter un piano potable à la maison, parce que j'ai trop honte après des musiciens qui veulent venir. Non, ça est. Donc, pour moi, de ce côté-là, non, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui change encore, c'est quel truc que je ne suis pas habitué, c'est que. Arriver à faire de l'objet microphone, l'objet lui-même, scéniquement, un truc qui n'est pas qui vous embête pas. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je me dis, bon, quand on chante la musique de chambre, on peut faire ce qu'on veut de son corps, on n'a pas besoin d'avoir toujours votre avant-bras plié et la petite boule devant la bouche tout près. Pour les gens qui font que ça, pour eux, c'est une seconde nature. Pour moi, c'est plutôt un truc, qu'est-ce que j'en fais de cette glace-là ? Si je ne peux pas la lécher, c'est pas très intéressant. Et donc, bon, bah, là, je me rends compte que quand je suis assis comme ça, à force de tenir le micro tout près, je me rends compte que je relève l'épaule, que c'est pas, voilà, je me rends compte des fois que je chante pour mon micro et pas pour le public, ce que je fais jamais quand je chante sans micro. Et, voilà, si j'explore tout ça, ça fait un petit peu le naïf qui découvre tout ça, toutes ces choses-là, mais bon, je viens avec mes acquis et mes terribles lacunes, et c'est assez passionnant à combler.
We were married on a rainy day. The grass was yellow and the sky was gray. We signed the papers and we drove away. I'd do it for your love. The room was musty and the pipes were old. And all that winter we shared a cold, drank all the orange juice that we could hold. I'd do it for your love.
Et projet hors jazz.
Ah bah hors jazz, il y a... Cette année, il y a beaucoup de choses avec madame, Nathalie Dessay. C'est assez chouette parce qu'on n'a pas beaucoup fait finalement. Donc, on a Pélias et Mélisande au théâtre An der Wien à Vienne. Une tournée avec Pélias et Mélisande au Japon. Et puis, on a Traviata aussi au Festival de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Donc, c'est une année qu'on va passer ensemble, ce qui ne nous est pas arrivé depuis quasiment 20 ans. Donc, c'est peu banal. Voilà, ça, c'est la saison, ce qui va faire le principal de la saison.
Alors, je sais que c'est toujours un peu le sujet un peu tarte à la crème. Vous avez parlé de madame. Le chant, enfin, quelque chose, comme on l'a dit, qui est aussi personnel, parce que tout ce que vous avez dit, etc., quand on le partage avec la personne avec laquelle on partage sa vie, j'allais dire avec qui le matin on a mangé, on a bu son café, trempé les tartines, et le soir on va se retrouver sur scène dans une... Quelle est la... Enfin, c'est peut-être difficile à évoquer, mais la particularité justement, je ne parle pas évidemment de la tartine dans le café, mais plus le soir, au moment moi, l'approche de votre art et de votre chant par rapport à ça.
Je suis content, parce que finalement on a peu souvent l'occasion de s'écouter mutuellement sur une longue période de temps, et pourtant je pense qu'on est l'un pour l'autre des très bons conseillers. Et je suis très content de cette saison où on va pouvoir s'écouter régulièrement, tous les jours, en répétition. Et je pense, j'ose espérer que ça va nous faire avancer beaucoup, tous les deux, ça va nous apporter. Parce que je pense qu'on se connaît, on connaît la voix de l'autre assez bien, chacun. Mieux que la plupart, mais par contre, comme on est souvent dans des endroits différents, c'est vrai qu'on s'entend le jour du concert, on s'écoute le jour du concert, mais pas sur cette espèce de régularité. Et pour moi, ça va changer, parce que je pense qu'on est, on comprend le fait d'avoir son partenaire qui en même temps qui fait le même métier, comprend des choses avec un degré d'intimité peut-être plus grand quand même.
Mais justement, il y a quand même cet aspect-là, c'est-à-dire finalement, où il y a, est-ce qu'il y a vraiment une frontière entre, entre la vie et,
oui,
et
là, oui,
seul,
oui.
Une engueulade le matin, on se retrouve
bien
le soir sur scène, l'impact de
comme n'importe
sur...
quoi, bien sûr, ça pourrait arriver, c'est... bien sûr, c'est... Bah, ça peut être très chiant, hein. C'est tout, ça peut arriver, bien sûr, mais ça c'est la vie, je veux dire, heureusement, elle n'est pas faite que de moments comme ça, mais bien sûr que des moments comme ça peuvent arriver, bah, bah, s'ils arrivent, tant pis, ça fait partie des pertes et profits, hein. Je veux dire, force. Ça va jamais être tout rose et peut-être, peut-être, je sais pas.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, c'est sous-entend que c'est une manière de chanter qui est unique par rapport aux autres.
Ah oui, oui, ça c'est. Mais en même temps, quand on est sur scène, on est quelque part. J'aimerais refaire cette interview dans 2 mois. J'aurais plus d'expérience.
Voilà, l'après.
Voilà, voilà, exactement. Parce que j'en parle, mais en peu de connaissances de cause. Finalement, on l'a fait il y a tellement longtemps, et puis dans des conditions très particulières où c'était des productions qui existaient déjà, donc on n'avait pas le travail de création à faire ensemble. Là, c'est vraiment du nouveau. Donc, je ne sais pas où on va. J'aime beaucoup l'idée de ne pas savoir où on va.
Vous avez parlé de jazz, tout ce que vous allez faire, etc. Est-ce que vous êtes un auditeur avide? Est-ce que c'est un gros glouton de musique? Est-ce que vous achetez beaucoup de disques? Vous téléchargez? Vous allez au concert? Est-ce que vous avez
un besoin
concert, de...
Je vais plutôt au concert. Que je ne suis pas un gros consommateur. On a plein, une énorme bibliothèque de disques. Et c'est vrai que de faire pas mal, j'écoute... ce qui m'intéresse souvent, c'est vrai que où je vais au concert parce que j'ai des gens que j'ai envie de voir jouer, je suis attiré par la musique qui est connexe à mes préoccupations du moment. C'est vrai que j'ai bouffé un nombre de musiques brésiliennes récemment, un peu, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Enfin, donc voilà, c'est venu comme ça. Le jazz, je me tiens au courant, c'est quand même la musique que j'écoute le plus souvent, donc ça je me tiens au courant, j'écoute ce qui se fait parce que c'est certainement ce que j'écoute le plus pour mon plaisir ou comme ça quand je ne fais pas de musique moi-même. C'est très très varié, extrêmement anarchique et avec des grosses périodes de boulimie et des grosses périodes de rien du tout. Pas un seul disque, pas un seul téléchargement, donc comme je fais de la musique tous les jours, des fois j'ai envie d'en écouter, des fois c'est des amis qui jouent, j'ai envie d'aller les voir, des fois c'est des grands musiciens que j'ai envie d'écouter, mais je ne suis pas ni un collectionneur, ni non plus un type qui vit dans le désert, voilà.
Vous prenez des baffes encore, parce que vous avez parlé, vous avez dit en avant et après
Marc Murphy, c'est la grosse baffe. Ouais, pour moi, c'était vraiment la grosse baffe.
D'autres récemment ou non?
Récemment, Richard Good au Théâtre des Champs-Élysées, mais c'était avant les vacances. Et c'était la première fois que je l'entendais jouer en live. Je trouve que c'est un pianiste extrêmement sous-estimé en France. Il s'est fait descendre peut-être à juste titre, j'en sais rien, peut-être il n'est pas en forme par à la Roque d'Anthéron, je le regrette fortement parce que pour moi c'est un des plus grands pianistes existants. Mais j'aime, alors à ce qui paraît c'est un chieur, j'aime bien les chieurs, j'aime bien comme Grigory Sokolov, ça me plaise toujours, hein, ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est de là auquel je pense là, comme ça, sur le moment. Revenez dans un quart d'heure, j'aurais fait une liste.
Non, on viendra.
Il y a eu Nathalie à San Francisco qui a fait la plus belle scène de folie. Je trouve qu'elle est arrivée à quelque chose là qui était pour moi une borne décisive. Elle a fait des très grandes scènes de folie dans Lucia avant, mais là, musicalement, pour moi, c'était quelque chose qui comptait. La production était comme ci, comme ça, l'orchestre comme ça, les partenaires. Mais cette scène-là,
scotché.
Ouais, je trouve que là c'était pile exactement. C'est une construction finie quoi dans cette scène là. C'était pour moi un aboutissement. Il y a encore à explorer, mais là c'était extrêmement personnel, c'était extrêmement bien conçu musicalement. C'était c'était un gros moment pour moi.
Écoutez, on vous souhaite de nouvelles baffes.
Bah ouais.
Merci Laurent Labrie.
Merci à vous.
I was up with the lark this morning. I love the dawn of the day. Roosters crow to me, crow hello to me. Every tree said glad to see ya. Dew is dewy, our cows are mooey, our soft winds blow. Nobody ought to be lazy, no, no, no. I'm fresh as a daisy, I feel so wonderful. I was up with the lark this morning, I yawned a little and then looked at the clock and I rolled back over again.
Rencontre par Marc Zisman.